Alyosha accompagna le starets dans sa chambre à coucher et l'aida à s'asseoir sur le lit. La cellule était très exiguë, très succinctement meublée. Une étroite couchette en fer, garnie d'une couverture en feutre au lieu de matelas. Dans un coin près des icônes, un petit autel surmonté d'une croix placée sur le livre des évangiles. Le starets s'assit, très là. Ses yeux brillaient de fièvre. Il respirait difficilement. Il regarda Alyosha d'un œil fixe, comme s'il eût été absorbé dans ses pensées. « Va-t'en, mon fils, Porphyrim suffira. Tu es plus utile là-bas. Va chez le père supérieur et sers le dîner. »« Accordez-moi la permission de ne pas vous quitter, » dit Alyosha d'une voix suppliante. « Non, tu seras plus utile là-bas. La paix n'y règne pas. Tu serviras, on a besoin de toi. Si les démons s'agitent, prie. Et sache, mon fils, le starets s'aimait à donner ce titre à Alyosha, que ton avenir n'est pas ici. Rappelle-toi cela, jeune homme. Aussitôt que Dieu m'aura rappelé à lui, quitte le monastère, quitte-le. » Alyosha tressaillit. « Qu'as-tu ? Pour le moment, te dis-je, ta place n'est pas ici. Il te faut la grande épreuve du monde, ton pèlerinage est encore long. Il faudra te marier, il le faudra. Il faudra que tu aies supporté bien les choses avant de revenir ici. D'ailleurs, je ne doute pas de toi, et c'est précisément pourquoi je t'envoie au-devant des dangers. Le Christ est avec toi, reste-lui fidèle. Il ne t'abandonnera pas. Tu auras des malheurs, mais tu seras consolé. Voilà mon testament. Cherche ton bonheur dans les larmes. Travaille, travaille sans relâche. Rappelle-toi ce que je te dis aujourd'hui. J'aurai sans doute l'occasion de te parler encore, mais non seulement mes jours, mais mes heures même sont comptées. » Le visage d'Alyosha trahissait une violente émotion. Les coins de ses lèvres tremblaient. « Mais qu'as-tu donc encore ? » dit le starets en souriant doucement. « C'est au laïc à pleurer les morts. Mais nous, nous devons nous réjouir quand l'un de nous s'en va et prier pour lui. Reste auprès de tes frères, non pas auprès de l'un d'eux, mais auprès de tous les deux. » Le starets leva sa main pour le bénir. Malgré tout son désir, Alyosha ne put résister à cet ordre. Il aurait voulu lui demander, et même la question brûlait ses lèvres, ce que signifiait le salut jusqu'à terre devant Dmitri, mais il n'osa pas. Il savait que le starets lui aurait donné, sans se les laisser demander, toutes les explications qu'il aurait jugées nécessaires. Pourtant, ce salut inquiétait Alyosha. Il y soupçonnait quelque sens mystérieux et peut-être terrible. En dépassant l'enceinte de la Céter, et tout en se hâtant pour arriver à temps chez le Père supérieur, Alyosha sentit son cœur se serrer. Il s'arrêta. Il entendit de nouveau vibrer dans sa mémoire les paroles du starets relatives à sa fin prochaine. Une telle prédiction, si précise, devait se réaliser à coup sûr. Alyosha y croyait aveuglément. Mais que deviendrait-il alors? Vivre sans le voir, sans l'entendre, et où aller? Il me défend de pleurer. Il m'ordonne de quitter le monastère. Dieu, oh mon Dieu! Il y avait longtemps qu'Alyosha n'avait été aussi triste. Il hâta sa marche et parvint dans le petit bois qui séparait la Céter du monastère. Là, ne pouvant plus supporter ses pensées, il se mit à considérer les sapins centenaires qui bordaient le sentier dans le bois. La traversée n'était pas longue, 500 pas tout au plus. À cette heure, le chemin était ordinairement désert. Mais à un détour, Alyosha rencontra le séminariste Rakitin. Ce dernier semblait attendre quelqu'un. « Ce n'est pas moi que tu attends ?» lui demanda Alyosha en le rejoignant. « Précisément toi, » dit Rakitin en souriant. « Tu vas chez le père supérieur. Je sais qu'on dîne chez lui. La table n'a pas été aussi bien servie depuis le jour, tu te rappelles, où il a reçu l'évêque et le général Paratov. Moi, je n'y vais pas. Allez, toi, va servir les sauces. Mais dis-moi, Alexei, qu'est-ce que signifie le salut du Starets à ton frère Dmitri Fyodorovitch? Il a heurté le sol avec son crâne, j'ai entendu. C'est du père Zosima que tu parles? Oui, du père Zosima. Avec son crâne? Ah, oui, je ne me suis pas assez respectueusement exprimé, soit. Mais qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas, Micha. Je me doutais qu'il ne te l'expliquerait pas. Il est vrai que c'est assez facile à comprendre. Ce sont les éternelles niaiseries. C'est un truc. Voilà de quoi causer pour tous les bigots de la province. On se demandera qu'est-ce que ça veut dire. Quant à moi, le vieux me semble avoir la vue longue. Il a pressenti un crime. Ça pue le crime chez vous. Quel crime? Un crime qui sera commis dans la famille, entre tes frères et ton père trop riche. Mais en attendant, le père Zosima a heurté son crâne. Et si quelque chose arrive, on ne manquera pas de dire « Ah, le Saint-Père l'avait bien prévu !» Quoique ce soit une étrange prédiction que ce coup de crâne sur la terre. Ah oui, mais c'est un emblème, une allégorie, diable soit. Il a désigné le coupable. Les innocents, on se signe dans le cabaret, on jette des pierres dans le temple. Ton Starets, c'est ainsi. Il frapperait le juste avec son bâton et salue le coupable. Mais quel crime, quel coupable, que dis-tu? Quel coupable? Comme si tu ne le savais pas. Je parie que tu as déjà pensé toi-même. Tu dis toujours la vérité, mais tu sais t'asseoir entre deux chaises. Au moins cette fois, dis-moi franchement, si tu n'avais pas pensé à cela. Oui. « J'y ai pensé, » dit à voix basse Alyosha. Rakitin lui-même se troubla. « Comment, toi aussi, tu y as pensé ?»« Moi, c'est-à-dire, » bégaya Alyosha, « j'y ai pensé en t'écoutant parlant et d'une façon si étrange. »« Tu vois bien, moi, l'idée du crime m'est venue en regardant ton père et ton frère Mitya. » Mais d'où conclus-tu? Pourquoi t'en occupes-tu autant? Voilà ce que je voudrais savoir. Ce sont deux questions différentes, mais logiques. Je vais te répondre avec ordre. D'où je conclus cela? Je n'aurais rien pensé de pareil si je n'avais pas compris ton frère Dmitri Fyodorovitch tout entier d'un regard. Il y a une limite que les natures, comme la sienne, honnête mais sensuelle, ne doivent pas dépasser sans courir le risque de poignarder leur propre père. Or, ton père est un ivrogne, un débauché effréné, qui ne connaît pas de mesure. Ils ne seront ni l'un ni l'autre tenus par rien et tous deux rouleront dans l'abîme. Non, Micha, non. Si ce n'est que cela, tu me rencourages. Les choses n'iront pas jusque-là. Et pourquoi trembles-tu? Tout en admettant qu'il soit honnête, bête mais honnête, tu conviens au moins que ton frère est sensuel. C'est sa caractéristique. C'est d'ailleurs l'héritage paternel. Ce qui m'étonne, c'est que toi, Alyosha, tu puisses être encore vierge. Tu es pourtant un Karamazov. Dans ta famille, la sensualité est à l'état aigu. Eh bien, les trois autres, tous trois sensuels, ont tous trois un couteau attaché dans la botte. Ils vont tous trois se donner de la corne, et peut-être les imiteras-tu, toi, quatrième. Mais quant à cette femme, tu te trompes. Dimitri la méprise, fit Alyosha en tressaillant. Ah, c'est de Gouchenska que tu parles. Non, frère, c'est toi qui te trompes. Il ne la méprise pas, puisqu'il a quitté pour elle sa fiancée. Il y a là, frère, quelque chose que tu ne peux pas encore comprendre. Un homme peut devenir amoureux d'une beauté quelconque, de la beauté corporelle ou même d'une partie seulement du corps féminin. Il n'y a que les sensuels qui peuvent comprendre cela. Il donnera pour elle alors ses propres enfants, il viendra pour elle père, mère, patrie. Honnête, il volera, doux, il égorgera, fidèle, il trahira. Pouchkine a célébré les petits pieds des femmes. Mais il y a des gens qui ne sont pas poètes et qui pourtant ne peuvent regarder ces petits pieds-là sans en tressaillir. Et pas les petits pieds seulement. Le mépris en ce cas ne sert de rien. Dimitri peut mépriser Grushenskaya. Mais je comprends, dit naïvement Alyosha. Ah vraiment, oui, tu comprends. Insinua ironiquement Rakitine. Tu l'as dit malgré toi, c'est un aveu d'autant plus précieux. Cela prouve que ce sujet ne t'est pas inconnu. Tu as déjà réfléchi sur la sensualité. Ah, le Vierge, tu es un Éliassin, un petit sage en convient, mais le diable, c'est tout ce que tu as pensé déjà, tout ce que tu connais ou devines. Vierge, mais tu as déjà risqué un œil dans les profondeurs de l'abîme depuis longtemps. Allons, tu es tout de même un Karamazov. Oui, la naturelle sélection est pour beaucoup là-dedans. Par ton père, tu es un sensuel, et par ta mère, un innocent. Mais pourquoi donc trembles-tu? C'est parce que j'ai dit la vérité? Sais-tu, Gourchenika m'a demandé de t'amener chez elle et elle a juré de t'enlever ta soutane. Et si tu savais comme elle insistait, amène-le, amène-le! Mais qu'a-t-elle donc trouvé de si curieux en toi? C'est une femme extraordinaire, je t'assure. Salue-la de ma part et dis-lui que je n'irai pas, dit Alyosha en riant du bout des dents. Vieille chanson, frère. Or, si la sensualité est en toi, songe ce que peut être ton frère Ivan, qui est du même ventre que toi. C'est un Karamazov, lui aussi, c'est-à-dire un sensuel doublé d'un innocent. Oh, lui, il écrit des articles sur la question ecclésiastique pour s'amuser, en attendant, et qu'il publie dans quelque sot calcul mystérieux, quoi qu'il soit comme il l'a voulu même un athée. Sous-main, il tâche de souffler à son frère Mitya, sa fiancée. Et je crois qu'il y parviendra. Et du consentement de Mitenika lui-même. Mitenika lui abandonnera sa fiancée pour s'en défaire plus vite et aller librement chez Golchenika. Voilà les hommes sur lesquels pèse vraiment une fatalité. Ils comprennent que leur action est vile. Et la comète quand même. Écoute encore, ton vieux père voudrait couper l'herbe sous les pieds de Mitya. Il est fou de Grushenika lui aussi. L'eau lui vient à la bouche quand il la regarde. Ce n'est qu'à cause d'elle qu'il a fait tout à l'heure ce scandale. Mais c'est parce que Miousov l'a appelée fille perdue. Il est plus amoureux qu'un chat. Le père et le fils se heurteront fatalement, tu le vois. Gourchenika n'accorde rien à l'un ni à l'autre, rit de tous les deux et se demande lequel il vaut mieux garder. Car le père est riche, mais il n'épousera pas. Et un beau jour, il fermera sa bourse. Mitenka a donc son prix. Il n'a pas l'argent, mais il est capable d'épouser. Oui, il ferait cela. Il abandonnerait sa fiancée. Une beauté incomparable, riche, noble, et il épouserait Yurushenka, l'ancienne maîtresse d'un vieux bougique débauché. Voilà d'où pénètre le crime. Et c'est là ce que ton frère Ivan attend. Il aura Catherine Ivanovna, pour qui il meurt d'amour, et ses 60 000 roubles avec. Pour un petit homme nu comme un ver, c'est tentant. D'autant plus qu'en faisant cela, loin d'offenser Mitya, il lui rendra service. La semaine dernière, étant ivre dans un cabaret avec des tziganes, Mitenka criait à qui voulait l'entendre qu'il ne vaut pas sa fiancée et que son frère Ivan est seul digne d'elle. Au bout du compte, Katenka Ivanovna est sans défense contre un séducteur comme Ivan Fiodorovitch. Elle hésite déjà entre les deux, mais par où donc vous a-t-il tout charmé, cet Ivan? Quand vous êtes à sa dévotion, il se moque de vous, il se régale à votre compte. Mais comment sais-tu cela? Pourquoi en parles-tu si brutalement? Dit Alyosha offensé. Mais pourquoi me fais-tu cette question, puisque tu crains en même temps ma réponse? Conviens-toi-même que je dis vrai. Tu n'aimes pas Ivan. Ivan est un homme désintéressé. Vraiment? Et la beauté de Katerina Ivanovna? 60 000 roubles? C'est pas dédaigné. Ivan est un homme supérieur à ces choses-là. Ce ne sont pas des millions de roubles qu'il séduirait. Il se dévoue, peut-être. Qu'est-ce que cette nouvelle songerie? Oh, vous autres, les nobles! Eh, Micha, ton âme est haute. Son âme est très haute. Il a l'esprit absorbé par une grande pensée qui n'a pas encore pris son essor. Il est de ceux auxquels il faut autre chose que de l'argent. Il leur faut résoudre le problème. Mais c'est un plagiat, Alyosha. Tu as paraphrasé le Starets. Quel problème il est lui-même pour vous, cet Ivan? Dit Rakitin avec une méchanceté évidente. Un sot problème, d'ailleurs sans solution. Fais manœuvrer ta cervelle et tu comprendras. Son article est ridicule, cela n'a pas de sens. J'ai entendu sa théorie. S'il n'y a pas d'immortalité, il n'y a pas de vertu et tout est pourri. Et ton frère, Mitenka, qui s'écrie « Je m'en souviendrai !» Quelle théorie séduisante pour les coquins! Mais je dis de gros mots, j'ai tort. Des coquins, non, des écoliers, des fanfarons, avec un problème insoluble dans la tête, des vantards. La théorie est ignoble. L'humanité trouvera en elle-même la force de vivre pour la vertu, sans avoir besoin de croire à l'immortalité de l'âme. C'est dans l'amour pour la liberté que l'humanité trouvera cette force. Et Rakitin s'exaltait. Tout à coup, comme s'il se rappelait quelque chose, il s'interrompit. « Non, mais c'est assez, dit-il. Tu ris, oui, tu me trouves banal. » « Non, je n'ai pas pensé. Tu es très intelligent, mais... » « Laisse donc cela, je souris sottement. Tu allais t'exalter, Micha. J'ai compris à tes emportements qu'à toi-même, Katerina Ivanovna n'est pas indifférente. Je soupçonnais cela, frère, depuis longtemps. Et c'est là pourquoi tu détestes Ivan. Tu es jaloux de lui. » Oui, et de son argent aussi, ajoute encore cela. Non, non, je ne parle pas d'argent. Je ne veux pas te faire cette injure. Mais je te crois, mais que le diable t'emporte avec ton frère Ivan. Je puis le détester sans que Katerina Ivanovna y soit pour rien. Et pourquoi aurais-je de l'amitié pour lui? Il me fait bien l'honneur de me détester. Pourquoi ne lui rendrais-je pas la pareille? Je n'ai jamais entendu parler de toi, ni en bien ni en mal. Mais moi, j'ai entendu dire qu'avant-hier, chez Katerina Ivanovna, Il m'a habillé de la belle manière. Voilà à quel point il s'intéresse à ton serviteur. Lequel des deux est jaloux de l'autre, frère? N'en sais vraiment rien. Il a daigné dire que si je ne consens pas à devenir archiprêtre le plus tôt possible, j'irai certainement à Pétersbourg. J'entrerai dans quelque importante revue, certainement dans le bataillon des critiques. J'écrirai durant une dizaine d'années, au bout du compte, la revue m'appartiendra. Je la dirigerai vers le libéralisme et l'athéisme, voire vers le socialisme, tout en me tenant exactement sur la réserve, étant à la fois des uns et des autres, et en la faisant au sceau. Et le socialisme ne m'empêchera pas de mettre un petit magot de côté pour l'utiliser à l'occasion, sous la direction de quelques juifs, jusqu'au moment où je pourrai faire bâtir une grande maison à Pétersbourg pour y installer la rédaction. Ah, oh, Micha, mais cette prédiction pourrait bien se réaliser à la lettre, s'écria Alyosha en éclatant de rire. Hihi, vous prenez goût au sarcasme, vous aussi, Alexeï Fiodorovitch? Non, excuse-moi, je plaisante. J'ai bien autre chose en tête. Écoute, qui a pu te renseigner si bien? Tu n'étais pas toi-même chez Katerina Ivanovna quand Ivan me parlait de toi. Non, je n'y étais pas, mais Dmitri Fiodorovitch y était. Et c'est de lui que je tiens la chose. Non pas qu'il me l'ait dite lui-même, à moi-même, mais je l'ai entendu, malgré moi, certes étant caché dans la chambre à coucher de Grushinka. Ah oui, j'oubliais, vous êtes parents. Parents? Moi, parent de Grushenika, s'écria Rakitine en rougissant. Mais tu rêves, tu es fou. Alors comment, vous n'êtes pas parent, je croyais. Qui a pu te dire cela? Ohé, les Karamazov, vous vous faites passer pour les descendants de très vieux nobles. Chacun sait que ton père n'est qu'un bouffon et un pique-assiette. Je ne suis, moi, que le fils d'un pope. Et je ne compte pas auprès de vous, mes seigneurs. Pourtant, ne m'offensez pas avec tant de désinvolture. J'ai de l'honneur, moi aussi, Alexeï Fiodorovitch. Non, je ne suis pas le parent d'une fille publique, je vous prie de le croire. Et Rakitine était très excité. Non, pardon, je ne pensais pas t'offenser. D'ailleurs, est-ce donc une fille publique? Est-ce vraiment cela? Dit Alyosha, très confus. Non, je te répète, on m'avait dit qu'il y avait entre vous des liens de parenté. Et en effet, je te voyais aller très souvent chez elle et tu me disais qu'elle n'était pas ta maîtresse. Je ne pouvais m'imaginer que tu eusses pour elle tant de mépris. Méritait-elle donc une opinion si sévère? Si je vais chez elle, j'ai mes raisons pour cela. Contente-toi de cette explication. Quant à la parenté, c'est plutôt toi qui en auras une avec elle, par ton père ou par ton frère. Bah, mais nous voilà arrivés. Va à ta cuisine, va, et... Qu'y a-t-il donc? Qu'est-ce que c'est? Arrivons-nous trop tard? Ils n'ont pourtant pas pu dîner en si peu de temps. Peut-être les Karamazov auront-ils encore fait des leurs. C'est ce qu'il y a de plus probable. Et voici ton père avec Ivan Fiodorovitch. Ils sortent de chez le supérieur. Et voici le père Lesizov qui les interpelle du perron. Et ton père crie, agite les mains. C'est sans doute une querelle, baste. Et voilà Miusov aussi qui monte dans la voiture. Il passe et s'en va. Et le Pomirchik qui court aussi. Mais c'est encore un scandale. Le dîner n'aura certainement pas eu lieu. Peut-être ont-ils battu le père supérieur, à moins qu'on les ait battus eux-mêmes. Oh, ils le mériteraient bien. Rakitine ne s'étonnait pas pour rien. Au moment où Miusov et Ivan entraient chez le supérieur, Piotr Alexandrovitch était à demi calmé. On ne pouvait, songeait-il, faire aucun reproche au moine. Toute la faute était à Fiodor Pavlovitch, un si dégoûtant personnage qui n'avait pas moyen de se formaliser avec lui. Le père Nikolaï était ou devait être d'extraction noble. Pourquoi ne pas se conduire avec ces bonnes gens selon les règles de la plus stricte politesse? Ne devait-il pas leur prouver que lui, Miusov, n'avait rien de commun avec cet Ésope, ce bouffon, ce Pierrot? Ne ferait-il pas même sagement, d'autant plus que le profit au cas de gain serait mince, de renoncer au procès qu'il avait jadis intenté aux moines pour je ne sais quel droit de chasse et de pêche? Ses bonnes intentions s'affermirent encore après qu'il fut entré dans la salle à manger. Ce n'était pas une salle à manger proprement dite, tout l'appartement du père supérieur se composant de deux chambres plus vastes, il est vrai, que celle du Staretz. L'ameublement n'était pas très confortable non plus. Des meubles à cajou et cuir du style démodé de 1820. Le parquet n'était même pas peint. En revanche, tout reluisait de propreté. Des fleurs rares ornaient les tablettes, des fenêtres. Mais le luxe principal consistait naturellement en une table servie avec élégance. Une élégance relative, il est vrai. Une nappe blanche, un couvert étincelant, trois espèces de pain très doré, deux bouteilles de vin, deux autres bouteilles d'hydromel faites au monastère et une grande cruche en verre de kvass, renommée dans le pays mais point d'eau de vie. Rakitin raconta plus tard que le dîner était composé de cinq services. Il y avait une soupe à l'esturgeon et des gâteaux au poisson, puis un poisson cuit d'une manière particulièrement recherchée, puis des boulettes de poisson rouge, de la glace, une compote et enfin un blanc mangé. Rakitine n'avait pas été jugé digne de prendre part à ce gala. On y avait invité le père Iossif, le père Païssy et un autre moine. Ces trois religieux attendaient déjà quand Miusov, Kalganov et Ivan Fyodorovitch entrèrent. Le pomieschik Maximov se tenait à l'écart. Le père supérieur vint au-devant de ses invités. C'était un vieillard de haute taille, maigre, mais très solide encore, aux cheveux noirs abondamment semés d'argent, le visage long, imposant, émacié. Il salua silencieusement, les invités s'approchèrent pour qu'il les bénît. Miusov voulut même lui baiser la main, mais le supérieur la retira. Pourtant, Kalganov et Ivan la baisèrent à la russe. Nous devons nous excuser auprès de votre révérence, commença Piotr Alexandrovitch d'un ton aimable, à la fois important et respectueux. Fyodor Pavlovitch ne peut se rendre à votre invitation. Il a dû décliner cet honneur et pour cause. Dans la cellule du révérend père Rossima, il a prononcé de malencontreuses paroles, emportées par la chaleur d'une discussion avec son fils, en un mot, des paroles tout à fait inconvenantes. Il est probable, il jeta un coup d'œil furtif sur les moines, que votre révérence est déjà au courant. Il a reconnu son tort, en a eu honte, et se jugeant indigne de paraître devant vous, il nous a chargé, son fils Ivan et moi, de vous exprimer ses regrets sincères. En un mot, il espère racheter sa faute par la suite. Quant à présent, il vous demande votre bénédiction et votre pardon. Miusov se tut. En débitant sa tirade, il avait perdu tout souvenir de son irritation récente. Il était content de lui et par conséquent il aimait toute l'humanité. Le supérieur l'écouta gravement, baissa la tête et dit « Je regrette beaucoup l'absent. Peut-être pendant la collation serait-il revenu à de meilleurs sentiments envers nous. Je vous invite, messieurs, à prendre place. » Le supérieur pria devant l'icône. Tous s'inclinèrent respectueusement. C'est à ce moment que Fiodor Pavlovitch fit une nouvelle frasque. Il avait d'abord voulu réellement partir, non qu'il fût honteux et qu'il eût conscience de son indignité, loin de là. Seulement il se rendait vaguement compte qu'il serait inconvenant de sa part, et pour lui-même désagréable, de se montrer après tout cela. Mais au moment de monter dans sa voiture, il se ravisa. « Il me semble toujours, quand j'entre quelque part, avait-il coutume de dire, que je suis plus vil que tous les autres et qu'on doit me prendre pour un bouffon. Et c'est précisément pourquoi je joue le rôle d'un bouffon. C'est parce que je sais que tout jusqu'au dernier, vous êtes plus bête et plus vil que moi. » Il voulut se venger sur les autres de ses propres infamies. À ce propos, il se rappela qu'un jour, comme on lui demandait pourquoi il y haïssait un tel, il avait répondu avec son impudence ordinaire, « Ben, c'est pourquoi. Il ne m'a rien fait, mais moi, je lui ai fait la plus ignoble grâce. Voilà pourquoi je le hais. » Il sourit méchamment à ce souvenir. « Mais puisque j'ai commencé, continuons, » dit-il avec une soudaine résolution. Il ordonna au cocher d'attendre, regagna le monastère à grands pas et se rendit tout droit chez le supérieur. Il ne savait pas lui-même ce qu'il allait faire, mais il savait seulement qu'il n'était déjà plus maître de lui. Tous les invités allaient s'asseoir quand il entra. S'arrêtant sur le seuil, il regarda la compagnie et éclata de rire, de son rire effronté, prolongé, méchant, tout en regardant droit dans les yeux de tous ceux qui étaient là. « Ah, oh, vous croyez parti, mais ben voilà !» Il y eut un mouvement de stupéfaction et de silence. On pressentait qu'une scène répugnante allait avoir lieu. Piotr Alexandrovitch redevint plus sombre que jamais. Toutes ses rancunes endormies se réveillèrent brusquement. « Non, non, je ne supporterai pas cela. Je ne puis absolument et... absolument et... » Le sang lui montait au visage, il ne trouvait plus ses mots. Il saisit son chapeau. « Quoi, vous ne pouvez pas ?» s'écria Fiodor Pavlovitch. « Il ne peut pas, absolument, et absolument. Votre révérence, puis-je entrer, oui ou non? M'agréez-vous pour convive ?»« Mais je vous prie de tout mon cœur. Messieurs, permettez-moi de vous prier d'oublier vos querelles, de ne pas troubler la paix de cette réunion. »« Non, 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 jamais !» cria Piotr Alexandrovitch hors de lui. « Si Piotr Alexandrovitch ne peut pas, je ne puis pas non plus. » « Je ne resterai pas. Je suis venu pour lui et je ne ferai rien que ce qu'il fera. S'il reste, je reste. Je pars s'il part. N'est-ce pas, von Zorn ?» dit-il en s'adressant au Pomeyetchkiv. « Car voici encore von Zorn. Bonjour, von Zorn. »« C'est à moi que vous parlez ?» murmura tout ahuri le Pomeyetchkiv Maximov. Ben « Oui, certainement, à toi et à qui donc ?» C'est pas le père supérieur qui s'appelle von Zorn. Mais moi non plus, je m'appelle Maximov. Non, tu es von Zorn. Votre révérence, savez-vous ce que c'est que von Zorn? Vous ne vous souvenez pas du célèbre procès criminel, von Zorn? On l'a tué dans un lieu d'abomination. N'est-ce pas ainsi qu'on appelle chez vous les mauvaises maisons? On l'a tué, dévalisé. Et malgré son âge respectable, enfermé et envoyé dans un coffre bien ficelé de Saint-Pétersbourg à Moscou avec un numéro. Les pécheresses, pendant qu'on le ficelait, chantaient, jouaient de la harpe et du piano. Et c'est ce Fanson-là. Il est ressuscité d'entre les morts, n'est-ce pas, Fanson ? Mais quoi ? Qu'est-ce cela ? Murmuraient les moines. Sortons ! Cria Piotr Alexandrovitch en s'adressant à Kalganov. Non, permettez, interrompit Fiodor Pavlovitch, faisant un pas en avant. Permettez-moi de finir. On a prétendu que je m'étais conduit respectueusement dans la cellule en parlant de petits poissons. Piotr Alexandrovitch Miusov, mon cher parent, préfère la noblesse à la sincérité. Moi, au contraire, je préfère la sincérité à la noblesse. Je crache sur la noblesse, n'est-ce pas, Fanson ? Permettez, père supérieur, je sois un bouffon que je me présente comme tel, je n'en suis pas moins un chevalier d'honneur, tandis que Piotr Alexandrovitch n'a que de l'amour-propre blessé, rien de plus. Chez vous autres, ce qui tombe n'a pas le droit de se relever ? Je me relèverai pourtant. Mais, Saint-Père, il y a quelque chose chez vous qui me révolte. La confession. C'est une chose sacrée devant quoi je m'incline. Je suis prêt à m'agenouiller. Mais dans vos cellules, on se confesse à haute voix. Est-il donc permis de se confesser à haute voix ? Les saints ont décidé qu'on ne doit se confesser qu'à voix basse. C'est la naissance du sacrement depuis son institution. Comment puis-je dire tout haut ceci, cela et autre chose ? C'est inconvenant. À la première occasion, je soumettrai cela au synode. Et en attendant, je retirerai d'ici mon fils Alexei. Notons en passant que Fiodor Pavlovitch avait entendu dire quelque chose dans ce sens, mais il ne savait au juste quoi. Des calomnies avaient couru au sujet des Staretsi. Ils auraient, au préjudice de leurs supérieurs, abusé des saints sacrements, calomnies qui, depuis, sont tombées d'elles-mêmes. « Mais c'est intolérable !» s'écria Piotr Alexandrovitch. « Excusez !» dit tout à coup le père supérieur. « Il est dit... On t'insultera, on te calomniera, écoute, et pense que c'est une épreuve que Dieu t'envoie pour humilier ton orgueil. Nous vous remercions donc humblement, cher hôte. » Et il salua jusqu'à la ceinture Fiodor Pavlovitch. Ta ta ta, bigoterie, vieille phrase, vieille comédie, vieux mensonge. Cérémonial officiel et banal, tous vos saluts jusqu'à terre, oh, nous les connaissons. Embrasse sur la bouche et plonge un poignard dans le cœur, comme dans les brigands de Schiller. J'aime pas l'hypocrisie. Je veux qu'on soit franc. La vérité n'est pas dans les petits poissons, père, moine. Pourquoi gelez-vous ? Pourquoi pensez-vous que toutes vos privations auront dans le ciel leur récompense ? Pour une telle récompense, moi aussi je jeûnerai. Non, saint moine, sois vertueux dans la vie, utile à la société, plutôt que de t'enfermer dans un monastère où tu trouves un pain que tu n'as pas cuit. Ne compte pas sur la récompense céleste. Ah, ce sera plus difficile alors de bien vivre. Je sais aussi bien parler, père supérieur, vous voyez. Qu'a-t-on donc préparé ici ? Dit-il en s'approchant de la table. Du vieux port-wine, factory, du médoc ? Oh oh, mes pères, cela s'accorde mal avec les petits poissons. Voyez, que de bouteilles, mes pères ! Oh oh ! Qui donc a fourni tout cela ? Les moujiks ! Ils peinent pour vous, n'est-ce pas ? Et vous apportent le dernier sou qu'ils tirent de terre avec leurs mains calleuses, au préjudice de la famille et de la patrie. Mais, Saint-Père, vous prêcherez le peuple. » « Oh, c'est intolérable !» répéta le père Iossif après Mioussov. Le père Païssy gardait le silence. Mioussov se jeta hors de la chambre et Kalganov le suivit. « Eh bien, mes pères, je vais suivre Piotr Alexandrovitch, et je ne remettrai jamais les pieds chez vous. Vous me supplieriez à genoux, je ne viendrai pas. Je vous ai donné 1000 roubles, et c'est pourquoi vous me faites les yeux doux. C'est tout, mes bons pères, c'est bien tout. Et c'est assez, mes pères. Nous sommes dans un siècle libéral, le siècle des bateaux à vapeur et des chemins de fer. Ni 1000, ni 100 roubles, ni 2 copecs, vous n'aurez plus rien de moi. » Le supérieur s'inclina encore. Il est dit, supporte joyeusement l'outrage et demeure pacifique, sois sans haine pour celui qui te blesse. Nous suivrons la parole. Ta 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 ta, dominus vobiscum et haute baliverne. Vous voudriez bien me retenir, mes petits papas, mais je m'en vais quand même, et juge de mon autorité paternelle pour vous reprendre mon fils Alexei. Ivan Fyodorovitch, mon fils le plus respectueux, permettez-moi de vous ordonner de me suivre. Et toi, Fonson, que vas-tu faire ici? Viens chez moi, on s'y amuse. Il n'y a qu'une verste à faire. Au lieu de friture, je te ferai manger du cochon de lait. Tu auras du cognac, des liqueurs. Voyons, Fonson, ne laisse pas échapper ton bonheur. » Il sortit en criant et en gesticulant. C'est à ce moment que Rakitine l'aperçut et le montra à Alyosha. « Alexei !» cria de loin Fyodor Pavlovitch. « Déménage aujourd'hui même, prends ton oreiller et ton matelas !» Alyosha resta comme cloué sur place. Fyodor Pavlovitch monta dans sa voiture et, sans même se retourner pour saluer Alyosha, Ivan Fyodorovitch, silencieux et morne, monta aussi. Tout à coup apparut sur le marchepied de la voiture le pomiachik Maximov. Il était essoufflé, ayant couru de peur d'arriver trop tard. Dans sa hâte, il mit un pied sur celui d'Ivan, et saisissant la bâche, il prenait déjà son élan pour monter. « Moi aussi, je viens avec vous !» cria-t-il en riant d'un rire qui illuminait toute sa face. « Prenez-moi aussi !»« Eh bien, ne vous l'avais-je pas dit ?» s'écria Fyodor Pavlovitch, tout transporté. « Que c'est Fonson, le véritable Fonson, ressuscité d'entre les morts. Mais comment as-tu pu leur échapper? Qu'as-tu encore Fonsonifié? Sais-tu, tu es tout de même une fameuse canaille. Moi aussi, je suis une canaille. Et pourtant ta canaillerie m'étonne, mon frère. Allons, saute vivement. Laisse-le monter, Vania, il nous abusera. » Il s'étendra à nos pieds. Couche-toi, Fonson. Ou bien, si on le mettait à côté du cocher. Allez, c'est cela. Saute sur le siège, Fonson. Mais Ivan Fyodorovitch, qui était déjà installé, repoussa de toutes ses forces, sans parler, Maximov, qui fit un bond de plusieurs mètres. Il ne dut qu'au hasard de n'avoir pas fait une chute dangereuse. « En route !» cria au cocher Ivan Fyodorovitch d'un ton irrité. « Mais qu'as-tu donc? Qu'as-tu donc? Pourquoi ?» dit Fyodor Pavlovitch. Mais la voiture partait déjà. Ivan ne répondit pas. « Voyons !» reprit Fyodor Pavlovitch après 2 minutes de silence, en regardant son fils de côté. « Mais c'est toi-même qui as proposé cette réunion au monastère. Pourquoi te vaches-tu donc ?»« À cette sottise, reposez-vous un peu maintenant, » dit Ivan sèchement. Si nous buvions un coup de cognac, dit Fédor Pavlovitch quelques instants plus tard. Ivan ne répondit pas. Quand nous serons arrivés, tu boiras aussi. Ivan restait toujours silencieux. Fiodor Pavlovitch attendit encore 2 minutes. Oh, je vais reprendre Alyosha, quelque désagréable que cela vous puisse être, mon respectueux Karl von Moor. Ivan Fiodorovitch haussa dédaigneusement les épaules, se détourna et regarda la route. Ils ne se parlèrent plus jusqu'à l'arrivée.